RCF.
François Bellec, si très longtemps la navigation a été conditionnée par la météorologie et notamment par le vent, elle l'a été aussi longtemps par la géographie et par la connaissance que l'on avait du monde tel qu'on se l'imaginait, ainsi que de la répartition de la terre, de la mer, des proportions. Quelle influence est-ce que ça a eu sur la manière justement d'entreprendre des voyages et de la navigation ?
Oui, tout à fait. La compréhension de la Terre, la cartographie de la Terre connue a conditionné tous les voyages et même à l'époque des découvertes, pendant très très longtemps, la géographie grecque qu'on avait retrouvée est restée très prégnante au point qu'il a fallu faire coïncider les découvertes avec la théorie.
Quand vous parlez de l'époque des découvertes,
oui,
situé à quelle période ?
C'est le 15e, ce qu'on appelle les grandes découvertes, c'est-à-dire le tour de l'Afrique par les Portugais, Christophe Colomb l'Amérique, et Magellan et le Pacifique. C'est cela hein, qui a été la grande époque de l'expansion maritime. Et donc la Terre finalement, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Terre était un espèce de disque plat en suspension dans le cosmos. Il y a une carte babylonienne au 5e siècle qui montre cette Terre avec une espèce d'océan circulaire reliant la Terre à des contrées célestes. Ça reste très vague. Au 4e siècle, déjà, tout se met un petit peu en ordre. On rassemble les connaissances sur le Cumène, c'est-à-dire la Méditerranée, l'espace à vivre chrétien, et le Proche-Orient jusqu'à l'Inde. Aristote démontre que la Terre est ronde. À partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, on sait que la Terre est ronde. Les progrès vont se faire assez vite parce que pratiquement Aristarque, au 3e siècle avant Jésus-Christ, propose que la Terre tourne sur elle-même. Et il envisage même l'héliocentrisme. Il envisage même que finalement, ça ne serait pas le Soleil qui
tourne autour de la Terre, mais l'inverse.
Ça serait le Soleil. Il évoque déjà, mais on lui dit, Aristarque, on lui dit qu'il est en train de troubler le repos des dieux, qu'il ne faut pas se lancer dans un truc pareil, que c'est trop... il va trop loin. Deuxième siècle avant Jésus-Christ, Hipparque, ce sont tous ces grands géographes grecs qui ont vraiment fait des progrès fulgurants. Il imagine un espace carroyé. Il imagine que l'on peut, en mesurant les hauteurs du Soleil à certains endroits grâce à des gnomons, en regardant les hauteurs des étoiles à certains endroits, il commence à imaginer et à dessiner, à supposer une carte de l'œcumène dans la Méditerranée avec au fond des parallèles et des méridiens. C'est là que naît le mot latitude et longitude. Qu'est-ce que c'est que la latitude? C'est la largeur, c'est le même mot en grec, c'est la largeur de la Méditerranée, la longitude c'est la longueur de la Méditerranée. Et donc là se met en place cette notion de latitude, c'est-à-dire de position d'un point par rapport au pôle nord et au pôle sud, sur un méridien, et la longitude qui est sa position autour de la Terre d'est en ouest. Bon, et ça se met déjà en place, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Bon, et puis Ératosthène, à cheval entre moins 2, plus 2 siècles, propose une géographie, un dessin du monde qui est très pertinent, qui représente une sorte, ce qu'on sait de l'Eurasie, comme une sorte d'île flottant sur le grand océan. La mer, c'est toujours la Méditerranée, l'océan, c'est l'Atlantique et tout le reste. Hein, c'est ce qu'on appelle l'Océanus. L'Océanus, c'est le grand océan. Bon, imagine ça. Et Ptolémée, lui, au 1er siècle, qui est le grand géographe, alors là, c'est le monstre sacré, c'est le compilateur de toute la géographie grecque, il propose une géographie, il propose ce mot d'ailleurs, géographie, et lui représente la Terre d'une autre façon. Alors là, il commet une erreur, c'est qu'il pense qu'au fond que l'océan Indien, c'est une grande Méditerranée, et qu'il existe un continent austral, une terra australis, non cognita, qui équilibre l'Europe et l'Asie. Pour que la Terre soit ronde et en équilibre dans l'espace, il manque quelque chose. Donc il propose cette terre australe.
C'est-à-dire qu'il y aurait comme ça deux terres à peu près équivalentes.
Voilà, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, deux espaces de terre qui ont l'air de s'équilibrer.
Et entre les deux, enfin au milieu...
Entre les deux, il y a la Méditerranée et puis l'océan Indien. Alors ça a l'air de rien, mais quand on va redécouvrir Ptolémée, mais qui réapparaît au 15e siècle, je vous dirai pourquoi, ça va conditionner vraiment toutes les découvertes. Ptolémée, on va chercher la Terre australe jusqu'au 18e siècle. C'est Cook, James Cook, qui le premier, après avoir été deux fois avoir franchi le cercle polaire antarctique, dit « il n'y a pas de Terre australe ». Donc vous voyez la prégnance qu'a été cette géographie grecque. Alors la géographie grecque, elle disparaît complètement pendant le Moyen-Âge, qui abandonne tout à fait cette connaissance.
Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les oublie?
Parce que on rentre dans une grande phase religieuse et l'Église se préoccupe surtout de faire comprendre le message biblique et de faire coller la création du monde au message biblique. Alors, on voit apparaître à ce moment-là les cartes qu'on appelle en taux. Théo, le T, c'est le Nil, le Don, l'Euphrate qui se croisent, la Méditerranée, entourée d'un O qui est l'océan circulaire. Alors, la Terre est toujours ronde, hein, on ne revient pas à la Terre plate, mais ça revient à dire, si vous voulez, que au fond, on représente de façon symbolique, relié à la Bible, le monde connu, donc toujours cet œcumène méditerranéen, et puis l'Asie jusqu'à l'Inde, que l'on connaît bien, qui a été investigué déjà par les Grecs, et l'océan circulaire tout autour, c'est l'océan, mais il n'y a rien à voir. On n'y va pas, c'est pas un domaine pour les chrétiens, c'est un domaine qui n'a aucun intérêt, qui est démoniaque.
La suite de l'histoire.
Sachant voilà, que l'eau, dans la symbolique chrétienne, peut signifier la mort. C'est le lieu de la mort.
Tout à fait. Puis c'est le lieu de la mort sans sépulture. Enfin, c'est l'abomination complète. En plus, il y a la notion de mer des ténèbres.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion qui domine aussi beaucoup cette période-là du Moyen-Âge ?
Et qui est d'ailleurs commune aussi à l'islam. L'islam a aussi cette notion de mer des ténèbres. Bien, l'océan, cet océan que l'on considère comme très maléfique, avec peuplé de monstres épouvantables, a forcément au-dessous, même si on comprend bien que on pense que le soleil tourne autour de la Terre, mais ça n'empêche pas qu'on pense que de l'autre côté, c'est noir. On est dans un noir, une obscurité absolue. Et les limites des navigations antiques et médiévales, c'est le Cap Bojador, c'est au sud du Maroc, c'est devant, un peu après, Essaouira.
On ne va pas au-delà.
On va pas au-delà.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là?
La tradition dit que la peau devient toute noire en franchissant le cap, et que les courants vous amènent vers l'équateur où l'eau bout.
Parce qu'il fait très chaud.
Parce que l'eau bout à l'équateur. Donc franchir le cap Bojador, c'est aller à la mort certaine. Et ça sera une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les premiers Portugais qui se lancent à l'assaut du cap Bojador reviennent, non pas parce qu'ils ont eu peur, mais parce qu'ils pensent que c'est suicidaire, et que l'infant Henri ne peut pas leur demander de perdre leur âme en se suicidant.
Donc cette croyance-là, elle perdure jusqu'à quand ?
Elle perdure jusqu'au
XVe siècle.
Et donc cette mer des ténèbres, ça ne se franchit pas. Certaines cartes disent qu'il y a une main qui sort de l'eau en disant « non procédez sans plius, ça ne va pas plus loin ». Enfin, il y a vraiment tout un mythe de la mer des ténèbres. Donc l'océan est bloqué, totalement bloqué, fermé à toute idée de navigation en dehors de l'espace méditerranéen.
Donc seule la partie est est envisageable.
Alors la partie est, eh bien, elle est pratiquée par les Arabes, parce que pendant que nous sommes terrorisés par la mer, en l'an 1000, prenons l'an 1000 comme exemple de référence, les Vikings ont traversé l'Atlantique, les Maoris ont peuplé le Pacifique, les Arabes, les Persans et les Chinois naviguent sans aucun problème depuis la Chine jusqu'au fond de la mer Rouge. Et les Arabes ont inventé une méthode de navigation par la hauteur de l'étoile polaire aux environs du 8e siècle, c'est-à-dire 7 siècles avant nous.
Extrait du poème « Le voyage » de Charles Baudelaire. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier « en avant ». De même qu'autrefois, nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent « Par ici, vous qui voulez manger ».
Ça veut dire que l'Occident, en quelque sorte, est au point mort,
oui,
pour des raisons obscurantistes.
Des raisons de plus en plus. Alors, il faut dire aussi que il n'y a pas tellement besoin de ça, puisque les routes de la soie sont exploitées par Venise. Venise envoie ses marchands sans problème sur le long des marchés orientaux, mais laisse les orientaux tout amener jusqu'au fond de la mer Rouge et du golfe arabo-persique. Les caravanes amènent ça en Méditerranée orientale. Venise a développé un réseau de galères marchandes, de très grosses galéas marchandes qui vont chercher tout ça, collecter tout ça en mer Noire et en Méditerranée orientale, ramène ça au Rialto et diffuse ça jusqu'aux Flandres. Donc il n'y a pas besoin de se mêler de navigation au long cours, puisque la grande richesse des routes de la soie, le poivre, les épices, le gingembre, la muscade, le girofle, la soie, le poivre, tout ça, ça arrive et c'est rediffusé par Venise. Donc il y a une sorte de système qui fonctionne bien et personne n'éprouve le besoin d'aller faire autre chose.
Pourtant, la préoccupation de l'évangélisation, alors qui battra son plein, on va dire, à partir du XVe siècle, au-delà des mers, hein, mais elle est quand même très présente dès le début. Elle pourrait être une véritable motivation.
Alors, elle est une des deux motivations des grandes découvertes.
Mais plus tard.
Un compagnon de Vasco de Gama dira, en arrivant à Calicut, le Samorim de Calicut, le roi lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et il répond cette phrase célèbre « Nous sommes venus faire des chrétiens et chercher des épices. » Il y a eu ces deux motivations-là qui ont été tout à fait simultanées et qui ont expliqué les découvertes. Cela dit, c'est le poivre. Le poivre a été le propergole de découverte, mais l'évangélisation a été sa grande motivation, la raison d'ailleurs pour laquelle l'Ordre du Christ a été vraiment le sponsor des découvertes.
Merci beaucoup François Bellec et à demain.